Vous écoutez On lit pour vous.
Le bonheur, c'est comme l'eau. Un texte de José Blanchette, paru le 5 juin 2026 dans Le Devoir. J'ai commencé mon été le week-end dernier en montant dans le nord pratiquer le néo-druidisme, une célébration celte qui s'attarde aux plantes et à la lune. C'était la lune bleue, dimanche, celle qui arrive rarement, comme dans l'expression « once in a blue moon ». J'ai remis la toune de Willie Nelson avec sa fille Paula au moins 15 fois avant d'arriver au dépanneur pour acheter des Pall Mall. Je ne fume pas, mais ça éloigne les mouches noires. Je chantais « Have you ever seen the rain » sous une petite pluie fine. « When it's over, so they say, it will rain a sunny day. I know, shining down like water. » Si quelqu'un veut la faire en duo au karaoké avec moi, je suis down jusqu'à Sainte-Agathe. Une route sinueuse qui contourne des lacs, de la musique country, un deb de région avec des gars à côté sur leur pick-up en train de se péter de la broue, et t'as des jeunes chansons. Dans le temps des 33 tours, on disait que tu faisais tourner le disque à l'envers et le gars retrouvait son chien Hank, sa blonde lui pardonnait tout, et son vieux Ford redémarrait. La vie d'un cow-boy est plus sereine à l'envers, mais ça ne fait pas de bons refrains. À l'endroit, ça donne des titres de tunes comme « When your phone don't ring, it will be me ». Imagine si le silence avait un nom et la sainte paix une page de remerciement. Fait que, j'ai le droit, c'est dans le dico, fait que, dis-je, j'ai cueilli des bourgeons de sapin baumier parce que Marie veut fabriquer du sirop pour tuer ma prochaine sinusite. Ils vendent ça 25$ les 30 capsules chez Avril, sans savoir qu'elle pratiquait le néo-druidisme pragmatique sous la pleine lune. Je lui ai lu l'article dans Le Monde à ce sujet. L'infiniment petit avec feu de joie et formule celtique a la cote, du moins en Bretagne, tout près des menhirs d'Obélix. Nous avons décidé d'un commun accord que le macro en arrachait trop, aussi bien se rabattre sur le micro, les treilles de la forêt, le mélilo du bord de chemin, l'or des lutins. On en rit encore de celle-là. Nous ne contrôlons que ce qui est à la portée de main, et ça dépend de la lune. Je soupçonne plutôt qu'au cœur de la consommation de tout ce qui est western se trouve un besoin de sens et de connexion, un besoin de retourner à quelque chose de plus vrai. Clara Champagne, nouveau projet. Dans la forêt, nous avons croisé un arbre qui a joué à roche-papier-ciseau. Il a enveloppé une grosse roche de ses racines et poursuivi sa route vers le ciel. Que voilà une belle leçon de vie néo-druidique. Fait comme l'eau ou la roche. Dans ma prochaine vie, je veux être une roche. Pas fancy, juste un caillou. Hormis un tremblement de terre ou l'arrivée d'une minière, tu as la paix, il me semble. Sophie Grégoire Trudeau, recyclée au néo-druidisme, nous expliquait récemment dans une vidéo filmée devant un ruisseau qu'il fallait rester aussi stoïque que la roche, même si tout partait en couille autour. Je ne sais pas si c'est une métaphore sur ce qui arrive au Parti libéral, mais j'ai failli l'envoyer à l'ex-ministre Stephen Guilbeault. Un gourou qui a été « cancelled », nous avons du choix, me disait jadis qu'il fallait faire comme l'eau, épouser les contours des obstacles et poursuivre son chemin. Vous adoptez votre élément, minéral ou aqueux. Le message se résume à « la vie ne va jamais comme on veut ». Mon B me racontait ses soucis l'autre jour et je lui ai répondu par une phrase du psy américain Albert Ellis que je venais de lire. « Tu n'as jamais vraiment besoin de ce que tu veux. C'est la clé principale et la plus absolue vers la sérénité. Ça sert à quoi d'avoir une vieille mère si elle ne peut pas te sortir des proverbes de biscuits chinois? » J'aurais haï ça que ma mère me donne des conseils non sollicités en mandarin. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu répondre en chantant « Quand le soleil dit bonjour aux montagnes ». C'était ma berceuse préférée quand il était petit. Il ne l'a pas oubliée. Je la chantais aussi avec mon grand-père Albin. Le country, c'est dans l'ADN gaspésien. « Count your blessings, ai-je ajouté, ce qui veut dire, en cap de 2026, « Count tes blessings, bro ». À chaque âge, ses épiphanies. Moi, j'ai atteint celui où j'ai largué l'hétérocompulsivité. Ça règle pas mal de problèmes, surtout depuis que j'ai lu dans Urbania que le sexe arrête à 40 ans. Excusez-la, j'ai ri. Comme les Gen Z ne baissent plus trop non plus, sont trop anxieux, je ne sais pas pourquoi, ça ne laisse pas grand temps pour réarmer la nation en vue d'un référendum. Gros pawa à Chaoui cet été. Être ému. Dans les micro-bonheurs de la vie, mon Oya est en fleurs. J'ai dansé le swing dans l'église de Valda avec deux Élise et un Alex samedi dernier. J'ai empoté une batch de confiture de rhubarbe à la vanille et j'ai porté ma première robe d'été fleurie cette semaine. Je suis les conseils du regretté Serge Bouchard. Je m'émeus d'un rien. Le secret du bonheur est dans le détail. Tous les gourous savent ça. Tiens, j'ai espionné deux voisins la semaine dernière. Une tranche de vie de trottoir. Bernard s'en venait clopin-clopin avec son déambulateur et croise Jean-Pierre avec sa canne blanche de non-voyant. Bernard l'interpelle et lui tend le bras en disant « La prochaine fois que je vous saluerai, je dirai « C'est Bernard » et vous saurez qui je suis. » Ils se sont serrés la main et j'ai capté au vol toute la fragilité de deux hommes qui ont perdu quelques certitudes en route, l'un signifiant à l'autre qu'il se reconnaît en lui. C'était de toute beauté, parce que fugace et humble. À partir du moment où on met de la vie dans tout, on est ému de la vie. Serge Bouchard. Au fond, c'est un peu tout cela qui nous garde sur le chemin. Voir l'autre, reconnaître ses cicatrices, poursuivre sa course comme l'eau, éviter les nids de poules à vélo, chanter du Willie Nelson ou du Philippe B, offrir des confitures de rhubarbe aux voisins qui viennent t'aider, aller admirer son nom gravé sur une pierre tombale, je prépare un apéro en juin au cimetière, pour bien se rentrer dans la tête que l'ultime destination approche. Pour tout dire, j'aimerais me réincarner en granit, une vocation pérenne doublée de la sainte paix. Je servirai aux épitaphes et j'aurai le mot de la fin. C'est un poisson qui s'adapte au changement avec une facilité étonnante. Quand les autres disparaissent, la barbotte reste. Éric Dupont, Nos poissons, la barbotte brune. C'était Le bonheur, c'est comme l'eau. Un texte de José Blanchette, paru le 5 juin 2026 dans Le Devoir.
Suprême du Canada, nouveau délit pour la violence conjugale. Un texte d'Eliette Lévy, paru le 28 mai 2026 dans La Liberté. Dans une décision historique dont le jugement a été rendu le 15 mai dernier, la Cour suprême du Canada a instauré un nouveau délit qui inclura désormais le contrôle coercitif dans les cas de violence conjugale. La création du délit de violence entre partenaires intimes vient combler une lacune dans la jurisprudence relative à la violence conjugale. Alors qu'auparavant, les victimes qui portaient plainte ne pouvaient invoquer que les délits liés à la violence physique et à l'infliction intentionnelle de troubles émotionnels, elles pourront désormais également demander des dommages et intérêts en cas de contrôle coercitif. La Cour suprême décrit le contrôle coercitif comme un ensemble de comportements qui portent atteinte à l'autonomie de la victime et à sa capacité d'obtenir respect, dignité et égalité dans une relation intime. Cela peut se traduire par du dénigrement, de l'humiliation, un contrôle financier, l'empêchement d'accéder à des possibilités d'éducation ou d'emploi, ou même par une conduite menaçante, comme la menace de se faire du mal ou de priver la victime de l'accès à ses enfants. Selon Maître Ruffine Duissy, avocate et présidente de la section des juristes d'expression française de l'Association du barreau canadien, ce délit facilite l'accès des victimes à la justice en allégeant le fardeau de la preuve. Au lieu de devoir prouver que leur agresseur avait l'intention de leur causer un préjudice physique ou émotionnel, les plaignants n'ont désormais plus qu'à démontrer que leur partenaire a intentionnellement adopté ces comportements de contrôle sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'ils aient été adoptés dans le but de les contrôler ou de les manipuler. Si je dois seulement prouver que mon autonomie a été réduite, je n'ai pas forcément besoin d'aller payer un médecin pour produire un document médical pour dire que j'ai un trouble émotionnel, explique Maître Duissy. C'est vrai que ça va demander une accumulation de preuves. Mais avec ce nouveau délit, je peux utiliser même des textos comme preuve. J'ai la traçabilité qu'il y avait ce contrôle qui existait dans la relation. Une avancée majeure pour les victimes de violences. Maître Ruffin Duissy salue cette décision, qu'elle considère comme un signe encourageant qui montre que les tribunaux écoutent nos plaintes et cherchent à améliorer notre situation. Bien qu'elle reconnaisse que ce nouveau délit ne mettra pas fin à lui seul à la violence conjugale, un phénomène appelé à continuer d'évoluer avec les lois et les réalités sociales, elle estime qu'il représente une avancée importante. Selon elle, il permettra notamment aux victimes d'obtenir une indemnisation plus juste pour les préjudices subis dans un contexte de maltraitance. Je ne dis pas que ça vient résoudre ou corriger ce que les victimes ont subi, mais une compensation financière est la moindre des choses. Un point sur lequel insiste aussi particulièrement Sonia Gremella, directrice et coordinatrice de développement de l'organisme chez Rachel, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Souvent, les femmes ne quittent pas leur situation parce qu'elles sont isolées du marché du travail. Il y a beaucoup de femmes qui se font raconter des choses pas vraies sur comment leur situation financière va s'aggraver si elles quittent. Donc reconnaître ce besoin financier est vraiment important aussi. Selon elle, comme les difficultés financières constituent souvent la principale raison pour laquelle les victimes restent dans des situations de violence, la perspective d'une indemnisation pourrait lever certains des obstacles qui se dressent sur leur chemin. Elle se dit également encouragée par la prise en compte de nuances plus subtiles dans la création de ce nouveau délit. Accompagnant au quotidien des femmes qui quittent des situations de violence conjugale, Sonia Gremella affirme constater beaucoup de menaces et que malgré l'existence de nombreuses preuves, les victimes rencontrent encore souvent plusieurs difficultés pour porter leur cause devant les tribunaux. Tout ce qu'il y a comme réforme qui peut faciliter une justice à ce niveau-là est extrêmement bienvenu. Elle ajoute toutefois qu'elle espère que les avocats continueront à recevoir une formation adéquate sur ce délit afin que son application puisse véritablement aider les victimes, pour qui les procédures judiciaires peuvent être éprouvantes et retraumatisantes. C'était Cour suprême du Canada, nouveau délit pour la violence conjugale. Un texte d'Eliette Lévy, paru le 28 mai 2026 dans La Liberté.
Le plus grand chantier du Québec. Un texte de Laure Varidel, paru le 6 juin 2026 dans le Journal de Montréal. L'économie devrait être au service de la vie, pas la vie au service de l'économie. Comment produire de la richesse sans détruire la vie? Telle est la question fondamentale qui devrait guider le plus grand chantier du Québec, celui d'une véritable transition écologique et sociale. Changer de paradigme. Depuis des décennies, nous évaluons le succès économique principalement au moyen de la croissance du PIB. Selon cet indicateur, le Québec n'a jamais été aussi riche. Or, jamais autant de familles n'ont eu recours à des banques alimentaires. Jamais autant de personnes n'ont peiné à se loger convenablement. La détresse psychologique augmente, tout comme l'incidence de plusieurs cancers et maladies chroniques chez les jeunes, alors même que la pollution se mesure jusque dans notre sang, que le climat se dérègle et que la biodiversité s'effondre. Tout ça dans un contexte où notre système de santé et de services sociaux, notre système d'éducation et l'ensemble de nos services publics craquent de partout. Face à ces constats, il est temps de repenser la manière dont on produit de la richesse. Il est temps de se tenir debout face à de puissants lobbies qui font passer leurs profits avant la vie, en faisant payer leurs coûts environnementaux et sociaux à la population. Commençons par Rouyn-Noranda. Il y a 2 ans, avec d'autres maires au front, je me suis couché sur une voie ferrée de la fonderie Horn, qui appartient à la multinationale multimilliardaire Glencore. Nous voulions attirer l'attention sur une injustice environnementale qui dure depuis des décennies à Rouyn-Noranda. Parmi les mères de famille qui demandaient au gouvernement de faire respecter les mêmes normes dans leur ville qu'ailleurs au Québec, il y avait Anne. Cette semaine, Anne est morte d'un cancer fulgurant. Sans pouvoir prouver que les émissions de la fonderie Horn ont contribué à sa mort prématurée, la littérature scientifique est claire quant au fait que l'exposition à des contaminants comme l'arsenic, le plomb et le cadmium augmente le risque de développer plusieurs types de cancers. Des cancers qui coûtent de plus en plus cher, comme on peut lire dans le grand dossier du journal. Combien d'autres ânes faudra-t-il avant que le gouvernement ne choisisse la prévention? Ainsi, de manière très, très concrète, le gouvernement du Québec a le devoir de retirer du projet de loi 11 l'amendement qui permettrait à la fonderie Horn de bafouer le droit à un environnement sain des résidents de Rouyn-Noranda jusqu'en 2033. Autrement, d'autres voies sont possibles, à Rouyn-Noranda comme ailleurs au Québec et partout sur la planète. Cette semaine, l'économiste Thomas Piketty co-publiait un rapport démontrant qu'il est possible de réduire les inégalités, d'améliorer le niveau de vie de la grande majorité de la population et de protéger l'environnement en même temps. Comment? En investissant davantage dans l'éducation, la santé, le logement et les services à la population, plutôt qu'en poursuivant aveuglément une croissance économique qui épuise les humains autant que les écosystèmes. Qu'attendons-nous pour choisir cette voie? C'était « Le plus grand chantier du Québec », un texte de Laure Varidel, paru le 6 juin 2026 dans le Journal de Montréal.
Voici pourquoi la lutte contre Alzheimer pourrait passer par les muscles plutôt que par le cerveau selon une étude. Un texte de la rédaction paru le 8 juin 2026 dans Futura Science. Et si le secret pour préserver la mémoire se cachait dans nos biceps plutôt que dans nos neurones? Une étude publiée en 2025 dans la revue Aging Cell bouscule les certitudes sur Alzheimer. Les muscles pourraient envoyer au cerveau des signaux protecteurs capables de ralentir le déclin cognitif. Depuis des décennies, la maladie d'Alzheimer est abordée comme un problème strictement cérébral. Plaques amyloïdes, inflammation neuronale, dégénérescence des synapses, la recherche cible presque exclusivement le cerveau. Pourtant, une étude récente publiée dans la revue Aging Cell remet en question cette vision en montrant que les muscles squelettiques, via une protéine appelée cathepsine B, peuvent influencer directement les performances cognitives chez des souris modélisant la maladie. Cette découverte ouvre une piste thérapeutique radicalement différente. Le muscle, messager chimique du cerveau. Beaucoup l'ignorent encore. Le muscle est un organe endocrinien. Quand il se contracte, il libère dans le sang des molécules appelées myokines, des messagers biologiques qui voyagent jusqu'à des organes éloignés, cerveau compris. La cathepsine B est l'une de ces myokines. Son taux sanguin augmente après un effort physique et des travaux antérieurs avaient déjà établi un lien entre cette protéine et de meilleures performances mnésiques chez l'humain comme chez l'animal. Concrètement, elle favorise deux processus essentiels. La neurogénèse hippocampique, création de nouveaux neurones dans la zone clé de la mémoire, la plasticité synaptique, capacité des connexions neuronales à se renforcer et s'adapter. L'idée des chercheurs était donc logique. Si l'exercice physique produit naturellement cette molécule protectrice, pourrait-on en amplifier la production directement dans le tissu musculaire pour secourir un cerveau fragilisé par Alzheimer ? Ce que révèle l'expérience sur les souris. Pour le vérifier, les chercheurs ont introduit un vecteur viral ciblant spécifiquement les muscles de souris génétiquement prédisposés à développer des caractéristiques d'Alzheimer. Objectif : surexprimer la cathepsine B dans ce tissu uniquement. 6 mois après l'intervention, les résultats sont frappants. Les souris traitées conservaient une mémoire spatiale stable et affichaient des capacités d'apprentissage proches de celles d'animaux sains. L'analyse cérébrale montrait une neurogénèse restaurée dans l'hippocampe, une région normalement très touchée par la maladie. Mais l'élément le plus surprenant tient à ce que le traitement n'a pas éliminé les marqueurs classiques d'Alzheimer. Les dépôts amyloïdes et l'inflammation cérébrale restaient présents. La mémoire s'améliorait malgré eux. La cathepsine B ne guérit pas la maladie au sens classique. Elle semble renforcer la résistance du cerveau, sa capacité à fonctionner malgré les lésions. Autre observation notable et qui mérite d'être signalée. Chez des souris saines, accroître artificiellement la cathepsine B a provoqué des troubles de la mémoire. Ce n'est donc pas un stimulant universel. Son effet protecteur s'exprime dans un contexte de fragilité neurologique, pas en dehors. Alzheimer, vu depuis les muscles, ce que ça change. Cette recherche, relayée par SciTech Daily, confirme qu'Alzheimer n'est pas une maladie isolée dans le crâne. La biologie périphérique, et notamment la communication entre muscles et cerveau, influence l'évolution de la pathologie. C'est une rupture conceptuelle majeure qui ouvre trois pistes concrètes pour la suite. 1. Mieux documenter le rôle de l'activité physique régulière comme levier de production naturelle de cathepsine B. 2. Développer des thérapies ciblant les myokines musculaires plutôt que les seules lésions cérébrales. 3. Exploiter les mécanismes de résilience cérébrale pour contourner plutôt qu'éliminer les marqueurs de la maladie. Si une chose est actionnable dès maintenant, c'est celle-ci. L'exercice physique reste le meilleur levier naturel pour stimuler la production de cathepsine B. L'Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes d'activité modérée par semaine, un seuil accessible et soutenu par des données solides sur la santé cognitive. C'était « Voici pourquoi la lutte contre Alzheimer pourrait passer par les muscles plutôt que par le cerveau selon une étude. » Un texte de la rédaction, paru le 8 juin 2026 dans Futura Science.
C'est son cœur qui rêve d'immortalité. Une chronique de Boucardiouf, parue le 13 juin 2026 dans la presse. Le plus ironique avec certains autocrates sanguinaires, c'est qu'ils sont capables de massacrer des vies à profusion. Mais lorsqu'ils voient avancer la mort vers eux, ils sont épouvantés. Ce que nous avons appris récemment sur le cas de Vladimir Poutine m'a particulièrement interpellé. On savait que Poutine craignait la mort, car on l'a vu épouvanté pendant la pandémie de COVID-19. On l'avait vu accueillir ses invités et collaborateurs en les installant au bout d'une très longue table pour rester le plus loin possible de leurs émanations buccales. Même ses visites du champ de bataille où les soldats russes se font massivement abattre sont plus furtives et beaucoup moins assumées que les passages de Volodymyr Zelensky sur la ligne de front. Maintenant que son corps est vieillissant, le voilà qui rêve de prolongation et même d'immortalité. Une enquête du Wall Street Journal nous a récemment appris que Vladimir Poutine avait dépensé 26 milliards de dollars dans des projets sur la longévité. Ce gigantesque programme de recherche explore de nombreuses avenues pour repousser la date de péremption du corps humain. Sur fond de transhumanisme, on y cherche à repousser la mort et on rêve même d'immortalité. Le transhumanisme, c'est ce courant de pensée qui vise à utiliser la science et la technologie pour créer des humains aux capacités augmentées. Les tenants de cette vision voient aussi la mort comme un ennemi qu'il faut combattre avec notre puissant cerveau afin de tendre vers l'immortalité. Vladimir Poutine y croit et y travaille pendant que son ami Donald Trump explore un autre chemin d'éternité. Le président américain laisse son nom sur le patrimoine bâti. Il pense s'offrir une immortalité de cette façon, mais comme le ferait un goéland ou un pigeon, il ne fait que dégrader le mobilier urbain avec la complicité inébranlable de ses disciples. Quand M. Trump dit quelque chose, toutes les langues brunes du mouvement MAGA qui lui servent de bidet biologique entendent une parole d'évangile provenant d'un être qui mériterait d'être canonisé. Mais laissons Donald Trump somnoler et revenons à M. Poutine. Toujours dans le Wall Street Journal, on rapporte que l'année dernière, lors d'une conversation privée captée accidentellement par un micro resté ouvert, on a entendu Vladimir Poutine confier à son homologue chinois Xi Jinping que les êtres humains pourraient devenir immortels grâce aux transplantations d'organes. Il investit dans ce gigantesque projet en espérant probablement repousser sa propre date de péremption. Je parle ici de transhumanisme. Mais au 19e siècle, bien avant les balbutiements de cette jeune science occidentale, le cosmisme une ancienne philosophie mystique originaire de Russie, prônait une vision pas très différente. Contrairement au transhumanisme, qui est une science très cartésienne, dans le cosmisme, le mysticisme chrétien, la conquête spatiale, la science-fiction et le matérialisme se rejoignaient dans une seule et même mission, faire tomber les limites de la nature humaine héritée de l'évolution. Le contrôle de notre destinée et la résurrection des morts grâce aux avancées scientifiques faisaient aussi partie des objectifs de Nikolaï Fiodorov, père du cosmisme. C'est peut-être aussi cette ancienne croyance russe que Vladimir Poutine, ce sanguinaire qui rêve d'immortalité, essaye de ressusciter. Malheureusement pour lui, la nature préfère de loin investir dans un bébé que de retaper un vieux corps pour l'éternité. Vladimir Poutine commence à réaliser que ces pectoraux qu'il exhibait jadis devant la presse planétaire en sortant d'un lac ou à califourchon sur un cheval, comme un mâle alpha en mal d'attention, ne sont rien de plus qu'un emballage recyclable et finement fignolé par la sélection naturelle pour transporter des gènes. C'est à la fois tragique et ironique que ce type qui a assassiné plusieurs de ses opposants et envoie des dizaines de milliers de jeunes dans la fleur de l'âge se faire massacrer ait peur de mourir. Il est la preuve que ceux qui sacrifient le plus facilement la vie des autres accueillent moins sereinement leur propre finitude. Malheureusement pour lui, la grande faucheuse est une démocrate qui ne reconnaît pas la hiérarchie lorsque vient le temps de frapper. Mon père disait qu'en sortant du ventre de notre mère, il y a une distributrice de tickets pour nous accueillir. Avant son premier cri, le bébé est appelé à prendre un billet de retour et à l'avaler en même temps que sa première bouffée d'air. Le cordon est ensuite sectionné et sa vie hors du ventre commence. En grandissant, toutes les personnes qu'il rencontre ont aussi avalé leur ticket et ne savent pas quel chiffre y était écrit. Cependant, lorsque sonne l'heure du départ, tous sont appelés à recracher leur billet. Ils découvrent alors que leur date d'expiration est arrivée. J'ajouterai à cette image qu'encore aujourd'hui, la bonté, la bienveillance, aimer et être aimé sont les seules voies d'accès à une belle existence après la mort qui sont éprouvées. Cette immortalité est bien plus facilement accessible que les promesses incertaines portées par le transhumanisme. Elle est cependant cachée dans un organe qui semble justement manquer à tous les sans-cœurs du calibre de Vladimir Poutine et de son ami Donald Trump. C'était « Ces sans-cœurs qui rêvent d'immortalité », une chronique de Boukhar Diouf parue le 13 juin 2026 dans la presse.